Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Reconfinement ou couvre-feu renforcé, en attendant les décisions, sans doute demain, question dans un instant sur le maintien de la rentrée scolaire lundi prochain. Les écoles, collèges et lycées ont-ils, oui ou non, contribué au rebond de l'épidémie? Et puis comment favoriser le télétravail? Les entreprises sont-elles prêtes à laisser leurs salariés à distance? Le chômage au troisième trimestre en baisse de 11% sur 3 mois, mais à la hausse de 9% sur un an. En Italie, des troubles après l'annonce de nouvelles restrictions. Et en Turquie, l'appel d'Erdogan au boycott des produits français, pour l'instant, peu suivi des faits. Invité d'Europe Midi, Alexandre Orlov, l'ancien ambassadeur de Russie en France, qui publie ses mémoires. Il a été près de 30 ans en poste à Paris. Il en a connu tous les leaders. Il déplore le refroidissement franco-russe. Mais à qui la faute ?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les jours heureux promis par Emmanuel Macron à la mi-avril sont donc renvoyés au calende. L'heure est à nouveau aux décisions difficiles. Expression du ministre Darmanin ce matin. Décision sans doute demain après un premier conseil de défense ce matin et des consultations ce soir à Matignon des partis politiques et des partenaires sociaux. Couvre-feu plus précoce, étendu en journée le week-end ou reconfinement strict dans les régions les plus touchées. Tout est sur la table, rien n'est encore arrêté. Mais avec vous, Victor Veland, une question sensible et controversée. Est-il raisonnable de rouvrir les écoles, collèges et lycées lundi prochain? Les établissements sont-ils des foyers de super-contamination que certains dénoncent?
Alors, selon les derniers chiffres de l'Éducation nationale, 27 écoles, collèges et lycées ont fermé pour des cas de Covid, 27 sur 61 500 établissements que compte notre pays, soit 0,04%. C'est très peu. Les spécialistes sont d'accord. Ces contaminations sont sans doute sous-évaluées. Mais en revanche, il y a un consensus européen sur la question. Non, l'école n'est pas un lieu de super-contamination, comme l'explique Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil.
Clairement, il faut maintenir les écoles ouvertes. Parce qu'on sait depuis le départ que les enfants sont moins contaminés, ils sont moins contaminants. Quand je parle des écoles, je parle des écoles, je ne parle pas des collèges, je ne parle pas des lycées, encore moins des facultés.
Pour les collèges et surtout les lycées et facultés, les épidémiologistes s'accordent à dire qu'il faut faire quelque chose. Entendez, passer tous les cours au lycée et à la fac en distanciel et renforcer le protocole sanitaire au collège. Enfin, qu'en est-il sur le port du masque dès le CP, comme l'ont fait nos voisins italiens et allemands? Pour l'épidémiologiste Dominique Costagliola, oui, il faut le faire.
Je ne vois pas ce qui s'oppose à ce qu'on ait un certain principe des précautions et qu'on recommande du coup le port du masque, y compris aux enfants à partir de 6 ans.
Enfin, un indice, ne trompe pas, ces derniers jours, les conseillers politiques ont multiplié les coups de fil à la Société française de pédiatrie en vue justement de nouvelles mesures qui seront annoncées sans doute demain.
Victor Deland, merci. Autre question qui attend une réponse du gouvernement, le développement du télétravail. Clément Le Saffre, dans les secteurs qui le peuvent, les entreprises sont-elles prêtes à laisser leurs salariés à distance?
Dans l'idée, oui, hein, la souplesse est plutôt de mise aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. On est sur un télétravail à la carte, mais rebasculer tout le monde en télétravail comme au printemps, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Déjà car, d'après la dernière enquête du ministère du Travail, la rentrée de septembre avait été synonyme de retour sur site. 70% des salariés ont retrouvé leur bureau depuis un mois et seulement 12% sont encore en télétravail à temps complet. Un chiffre national qui cache quand même de grandes disparités régionales. Dans les métropoles où la situation sanitaire est déjà très dégradé depuis plusieurs semaines, le télétravail partiel ou complet concerne entre 30 et 50% des salariés.
Comment aller plus loin alors?
C'est un peu le casse-tête. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation à faire télétravailler ses salariés, en tout cas pas dans la loi, simplement une incitation. Quand on est sur un poste où on peut télétravailler, il faut télétravailler, a encore redit la ministre du Travail Elisabeth Borne ce matin. Beaucoup d'entreprises vont donc devoir chercher un moyen de faire machine arrière, de renvoyer les salariés chez eux. Mais pour l'instant, c'est le flou qui règne. Un couvre-feu élargi, reconfinement local ou global. Les entreprises attendent la décision du gouvernement et surtout des directives un peu plus claires malgré tout. Certaines se préparent déjà depuis quelques jours. Chez Orange, par exemple, une cellule de crise Covid est en place. Elle a été installée au printemps. On avait mis 60 000 personnes en télétravail. On le refera sans difficulté, assure-t-on chez l'opérateur. Autre exemple, chez BNP Paribas, on a pris aussi de l'avance. 60% des salariés sont encore en télétravail. On avait anticipé au cas où, justement, cette deuxième vague arriverait. Mais voilà, tout le monde n'a pas cette capacité d'adaptation des grands groupes, notamment les PME, dans une entreprise sur deux où le télétravail est possible. C'est perçu encore aujourd'hui, après plus de six mois, comme une difficulté quand même en termes d'organisation des journées de travail.
Clément Le Saffre, merci. Dans l'attente des décisions côté politique, les critiques continuent de pleuvoir sur ce gouvernement à nouveau submergé par la vague, mais plutôt que d'entendre les sempiternels, il aurait fallu faire ceci ou cela. Claudia Bertram, à l'Assemblée nationale, vous avez demandé aux différents opposants quelles sont leurs propositions aujourd'hui, les mesures qu'il faudrait, selon eux, mettre en place.
Oui, les oppositions ne comptent pas venir les mains vides, par exemple du côté de la droite. Damien Abad, le chef de file des députés LR, veut répondre à l'asphyxie des hôpitaux avec toute une série de propositions.
Des propositions très concrètes. Pourquoi aujourd'hui en France on n'est pas capable de faire venir des réanimateurs de l'étranger ? Pourquoi on n'est pas capable de mettre en place des hôpitaux éphémères ? Pourquoi on n'est pas capable que des infirmières aient un rôle et une fonction d'interne quand elles le peuvent et de former aussi ces internes qui ont eu déjà des expériences de réanimation pour augmenter nos capacités hospitalières de réanimation ?
Les insoumis, eux, vont une nouvelle fois mettre sur la table les propositions qu'ils avaient déjà formulées lors de la première vague. Des propositions que détaille le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
On va lui demander de faire enfin ce qu'il faut faire. Premièrement, les masques gratuits. Deuxièmement, nationaliser Famar et Luxfer pour qu'on puisse disposer de ce dont on a besoin. Troisièmement, commencer, mettre en place les conditions d'un pôle public du médicament. Quatrièmement, organiser pour faire face à la détresse alimentaire, parce que ce problème n'est pas traité.
Chez les Verts, on compte insister sur deux leviers, le télétravail, l'instaurer partout où c'est possible, et les transports en commun, en développant l'offre aux heures de pointe pour les désengorger.
Claudia Bertram, depuis l'Assemblée nationale pour Europe 1. Faire venir des réanimateurs, des médecins de l'étranger, disait Damien Abad. Oui, mais de quel pays ? En Italie, une flambée de colère a accueilli les nouvelles restrictions. Fermeture des théâtres, cinémas, salles de sport pendant un mois et les restaurants et bars à partir de 18h avec des milliers de manifestants dans plusieurs villes et des incidents violents à Milan et Turin, Hélène Terzian.
Oui, c'est principalement dans ces deux grandes villes du Nord que les rassemblements ont dégénéré avec parfois des scènes de guérilla urbaine. Sur certaines vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit des personnes encagoulées, certaines crient « liberté, liberté », d'autres caillassent des vitrines, détruisent du mobilier urbain, des tramways ont été vandalisés, des poubelles incendiées. Face à ces violences, la police anti-émeute a été déployée, elle a riposté à coups de tirs lacrymogènes. Ces manifestations, elles font écho aux protestations de ce week-end qui ont eu lieu à Rome et surtout à Naples. Des centaines de manifestants, principalement d'extrême droite, avaient provoqué des heurts. À ce moment-là, ils protestaient contre un couvre-feu imposé à partir de 23h. Mais ces rassemblements n'ont pas fait reculer les autorités. Au contraire, les mesures ont depuis été durcies, avec notamment les bars et restaurants qui doivent désormais tirer le rideau à 18h. D'où la colère des restaurateurs hier. Dans une petite ville du nord du pays, la police a dû intervenir auprès d'un gérant qui accueillait 90 convives en signe de résistance. Pour tenter d'apaiser ces tensions, aujourd'hui, le Premier ministre Giuseppe Conte doit présenter des mesures de soutien au secteur d'activité les plus touchés par ces restrictions.
Hélène Terzian, à l'étranger encore, réaction à l'instant de la Commission européenne à Bruxelles après les menaces du président Erdogan. Un boycott des produits français éloignera encore plus la Turquie de l'Union européenne. C'était hier, je vous le rappelle, lors d'un discours virulent à Ankara. Je m'adresse à la nation, surtout ne prêtez pas attention aux marques françaises, ne les achetez pas, a lancé Erdogan, toujours en représailles aux propos d'Emmanuel Macron sur la liberté de caricaturer Mahomet. Ce mode d'ordre sera-t-il suivi? Comment les Turcs envisagent-ils cet éventuel boycott? Jean-Sébastien Soldaini est l'envoyé spécial d'Europe 1 à Istanbul.
Eh bien, c'est un boycott tout relatif car les habitants d'Istanbul, comme une dame que j'ai rencontrée ce matin, ne savent pas vraiment ce qui est français ou pas dans les rayons. Quant aux épiciers comme Ismail, c'est leur business qu'ils privilégient.
La vache qui rit, elle reste en rayon. Si les clients veulent l'acheter, ils peuvent. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis commerçant, je fais mon métier. Je n'aime pas le Coca-Cola, mais je le mets dans mon rayon. C'est le client qui décide.
Hors de question de retirer le lait d'un grand producteur français des rayons, mais ce que Ramazan approuve dans la démarche du président turc, ce n'est pas la méthode, c'est le fait de simplement se poser en défenseur de l'islam.
Il ne le fait pas uniquement pour nous, c'est pour tout le monde, pour défendre les musulmans. C'est une question d'équité. Il répond à une attaque injuste avec ses caricatures. Il sera toujours là, à nos côtés.
Car c'est bien là l'une des volontés du président turc, se poser en rassembleur, voire même en leader du monde sunnite.
Jean-Sébastien Soldaini en Turquie. Istanbul, où le Paris Saint-Germain joue demain en Ligue des Champions contre le Başakşehir. Ce soir, retour de la Ligue des Champions au Vélodrome pour la première fois depuis 7 ans, mais le stade sera vide à Marseille pour la rencontre OM-Manchester City. Soirée spéciale sur Europe 1 entre 20h et 23h30 avec Lionel Rosso et le match commenté en intégralité. À l'instant, la validation par le tribunal administratif de Bobigny de la fermeture temporaire de la mosquée de Pantin. La décision du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est donc validée par la justice administrative. Le temps